Notre première invitée s'appelle Geneviève Labrec. C'est une passionnée du monde de l'éducation, peu importe la condition des jeunes. Elle a fait œuvre utile dans le milieu de l'éducation pendant une quinzaine d'années et a choisi de mettre tout son cœur et son énergie auprès des enfants qui vivent avec une trisomie 21. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors, le regroupement pour la trisomie 21, j'entends dans le mot regroupement que vous accueillez plusieurs organismes qui touchent la trisomie 21?
En fait, non, on regroupe plusieurs parents qui vivent avec des enfants qui ont la trisomie 21. Donc, à la base, il y a en 1986, quand le regroupement est venu au monde, c'était des parents qui voulaient se regrouper entre eux, s'échanger, se donner du support, de l'information, et le nom est resté là d'un regroupement de parents. Donc, c'est un regroupement pour la trisomie 21 maintenant.
C'est souvent au moment, justement, de la grossesse qu'on entend davantage parler dans l'univers médiatique de la trisomie 21, quand on invite, par exemple, les mères à faire un test. C'est là le test d'amniocentèse, je crois qu'il
y a... Il y a plusieurs tests maintenant. Oui. L'amniocentèse, c'est celui qui se fait autour de la 20e semaine. Mm-hmm. Il y a plusieurs tests prénataux qui peuvent avoir lieu un peu avant.
Donc, c'est souvent à ce moment-là où on se pose la question comment on va accueillir un enfant avec une trisomie 21. Il y a toutes sortes de lieux conçus sur ces enfants-là, des préjugés également. Oui. Quels sont les préjugés les plus fréquents qu'on entend?
Il y en a plusieurs. Mm. Parce que la trisomie 21 est associée à une déficience intellectuelle, donc on va souvent penser que ce sont des personnes qui ne peuvent pas lire, ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas compter, peuvent pas devenir autonomes, mais on en a de tous les styles. Hein. On a des familles qui ont des jeunes qui sont capables de parler trois langues, on a des jeunes qui sont capables de lire, d'écrire, de compter, de travailler, d'avoir de l'autonomie résidentielle. C'est très variable, mais il y a beaucoup de préjugés encore. Un des plus grands préjugés aussi, c'est qu'ils sont toujours de bonne humeur, mais ils ne sont pas toujours de bonne humeur. Il n'y a personne sur cette planète qui est toujours de bonne humeur. En tout cas, si elle existe, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, ça me fait plaisir de la rencontrer. Mais dans les faits, il n'y a jamais personne de toujours de bonne humeur. C'est sûr qu'ils ont une intelligence émotionnelle très forte, mais il n'y a personne de bonne humeur en tout temps. Là. C'est presque impossible.
J'ai moi-même un peu plongé dans ce préjugé en les présentant en introduction. J'ai eu l'occasion de côtoyer une personne qui a une trisomie 21 dans le cadre d'un travail, un endroit où j'ai travaillé, c'était dans un programme d'intégration. Et Camille était vraiment, pour nous, notre soleil, mais il est vrai que parfois, elle se fâchait, mais elle se fâchait sur des choses qui étaient tellement d'une perspective, qui avait, je sais pas, une perspective drôle dans tout ça, qu'on riait avec elle, puis des fois, elle se fâchait, puis deux secondes après, elle était tellement contente, donc...
Mais en fait, ils vivent le moment présent. Personnes qui vivent, ils sont fâchés, ils vont être fâchés maintenant, c'est rarement, mais il y a toujours des exceptions, là. Ils ne sont pas des personnes rancuniers. Ils ne comprennent pas nécessairement la méchanceté, mais c'est des personnes, quand on les côtoie au quotidien, qui vivent le moment présent. Ils sont heureux. Ils sont fâchés. Mais c'est vraiment des personnes authentiques. Et ça, on n'en a pas tant que ça dans notre société.
Êtes-vous en train de nous dire, Geneviève, qu'ils ont réussi ce qu'on essaie nous-mêmes de faire avec la méditation?
On devrait avoir des coachs de vie qui ont la trisomie 21. C'est une idée à développer.
Et quand on parle d'un regroupement parents, c'est que j'imagine il y avait certains enjeux qui les préoccupaient, donc ils ont choisi de se réunir pour en discuter d'abord. Quel a été là, le fil conducteur?
En 1986, quand on arrivait à la maison avec notre enfant qui avait la trisomie 21, il fallait sortir une encyclopédie, chercher le mot mongolisme et lire la définition. Donc, il n'y avait pas d'informations. C'était à l'époque aussi de la désinstitutionnalisation. Donc, les parents se retrouvaient et là, il y avait plein de choses à créer. Les premières rencontres qu'ils ont faites, c'était, bien, quelle information qu'on aurait besoin de comprendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur notre enfant? Et ils ont créé une trousse d'informations pour les nouveaux parents en disant, bien, vous avez un diagnostic de trisomie 21 avec votre enfant, mais il y a le système médical qui va vous dire de l'info, mais au quotidien, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui vit? Des trucs, des conseils de stimulation. Donc, à la base, c'était de briser leur isolement. Et d'accompagner d'autres parents. C'était des gestes, des parents très généreux de leur temps. Et pendant 10 ans, ça a été un organisme qui a survécu grâce à des bénévoles. Il n'y avait pas d'employés permanents. Ça a pris 10 ans avant qu'il y ait des employés permanents qui se greffent à ces parents-là.
Donc, je comprends, ça fait presque 40 ans que l'organisme existe. Donc, ça a été quoi le cheminement depuis le début? Là, maintenant, votre équipe comprend combien de personnes?
Là, en ce moment, on a 9 employés permanents. Mmh. J'en ai autour de 23 contractuels, une centaine de bénévoles encore qui gravitent. Mmh. Nécessaire à la bonne, au bon fonctionnement, parce que un organisme communautaire, c'est souvent pas financé à la totalité de nos besoins ou des besoins des parents, en fait.
Mais parlons-en du financement. Là. Oui. Comment le regroupement pour la trisomie 21 est financé?
Nous, on est un des rares organismes recevant à peine 25 % de son chiffre d'affaires d'une subvention gouvernementale. Tout le reste, c'est des donations de fondations, de dons personnels, de particuliers. On fonctionne beaucoup par donation. Donc, annuellement, on va chercher autour de 75 % de notre chiffre d'affaires là, avec des dons.
Hmm.
Et des événements de financement que nous, on organise aussi. On organise une course depuis 16 ans au Parc Maisonneuve, au mois d'août, qui s'appelle la course 3-2-1 Go. À la base, elle a été créée pour démontrer la capacité des personnes qui ont la trisomie 21 à faire de la course à pied. Parce qu'on avait aussi ce préjugé-là qui n'était pas capable de faire de sport. Et on a commencé.
Ah, pourquoi?
Ben, c'est aussi associé avec une déficience physique, la trisomie 21. Et ils ont des membres un peu plus courts, ils n'ont pas nécessairement des capacités pulmonaires ou cardiaques pour faire de la course à pied. Mais cet été, au Marathon de Montréal, on a eu un jeune qui a couru le 5 km très rapidement. Et il y a des choses qui se font quand même dans les... 10 km au Marathon de Montréal et 5 km au Marathon de Québec. Donc, les événements, maintenant, sont de plus en plus inclusifs. C'est super le fun de voir les capacités. Mais les gens avaient des préjugés, on ne les incluait pas nécessairement dans les gyms. Et là, maintenant, on en voit de plus en plus là, qui font comme leurs parents. Là. Si ton enfant suit dans tes traces, bien c'est sûr, si tu es un grand sportif, ton enfant va devenir un grand sportif aussi. Mmh.
Moi, ce que j'ai appris avec le dossier de recherche de notre chercheuse Catherine, et que je ne savais pas, c'est que ils vieillissent plus vite que les enfants dits... on va dire normaux, là. C'est pas statistiquement, disons-le, mais qu'ils vieillissent plus vite. Donc là, vous nous amenez des éléments peut-être d'explication.
Oui, en fait, le vieillissement chez les personnes qui ont une trisomie 21 apparaît souvent autour de la quarantaine. Donc, ils deviennent plus âgés plus rapidement, si on veut. Leur corps physique, toutes les capacités, la ménopause va arriver aussi plus rapidement. Donc, ça, c'est des informations qu'on découvre parce que l'espérance de vie des personnes a beaucoup augmenté depuis les dernières années. Maintenant, leur espérance de vie est autour de 65 ans. Dans les années 80, c'était autour de 40 ans. Donc, on est en train de développer cette expertise-là. Et au regroupement pour la trisomie 21, bien, on s'est intéressé depuis 4-5 ans à comprendre ce phénomène-là parce que notre gros noyau de membres vieillissent et on les accompagne là-dedans. Donc, c'est sûr qu'ils ont des capacités, comme les gens, on va dire, neurotypiques, qui perdent leur capacité intellectuelle, mais ça arrive avec eux. Ils ont besoin de stimulation. Nous, nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont une trisomie 21, puis je pense, dans le monde du handicap, quand on les met à la retraite, bien, ils restent à la maison puis ils attendent. Mm-hmm. Ils n'ont pas de perspective de voyage. Quand on pense à notre retraite, on se dit, oh, ben, je vais aller faire du bénévolat, tout ça. Mais les personnes qui ont une trisomie 21, on les met à la retraite et ils attendent. Donc, on faut trouver des moyens de stimuler leur capacité pour pas que le déclin arrive trop rapidement.
Et quand on dit qu'il n'y a pas de perspective de voyage, vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qui sont capables, dépendamment des personnes, là, d'accomplir toutes sortes de choses. Donc, j'imagine que c'est possible de le faire.
C'est financièrement. Souvent, quand on a une trisomie 21 ou même un handicap en général, on n'a pas un emploi très bien rémunéré qui va nous permettre d'économiser. Si on est sur l'assistance sociale, on ne peut pas économiser. Mm-hmm. Donc, on le sait, là, voyager, ce n'est pas 10 $. Là.
Oui, en effet. Donc, parce qu'il y a ça, il y a d'avoir un emploi, mais quel type d'emploi qu'on peut accomplir et ce n'est pas forcément un emploi qui est extrêmement rémunéré quand ils ont un emploi. C'est ça qu'on comprend. Oui,
exactement. Mm-hmm. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour avoir des grands métiers, mais ils sont capables de faire plein de choses. On en voit de plus en plus qui sont des comédiens. Mm-hmm. À la télé, on en voit aussi qui sont capables de faire des tâches dans des cafés, qui sont capables d'accueillir, service à la clientèle. On a tendance à leur donner des emplois, redondants, récurrents, toujours la même tâche. Mais si on leur laisse la possibilité, si on écoute leurs désirs, ce qu'ils veulent faire, nous, on en a des jeunes qui veulent travailler dans des animaleries, qui veulent travailler avec des animaux, dans des garderies. Il y a plein de possibilités, mais souvent, on va les cartonner, on va les mettre dans un cadre, dans un silo. Vous devez faire ça. Mais il faut écouter leurs besoins aussi.
Mais la jeune fille, Camille, qui travaillait dans le milieu de travail où j'évoluais, s'occupait du café, justement. Mais rapidement, elle a eu un intérêt pour les plantes, entre autres, pour ouvrir le courrier. Et en regardant un peu ce qu'elle regardait, ce qui semblait l'intéresser, mais la personne qui s'occupait justement de rendre son emploi plus intéressant pour elle, eh bien, réussir son intégration, a ajouté différentes tâches au quotidien qui étaient effectivement parfois un peu routinière pour certains employés, mais dont elle accomplissait justement en étant dans le moment présent et en faisant bien chacune de ses tâches. Ce qu'on remarquait, par contre, c'est qu'il fallait bien scinder et expliquer la tâche et ce qui vient ensuite après la tâche, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, que la personne va comprendre.
Il faut un minimum d'accompagnement pour expliquer les choses, puis à la même chose, j'ai envie de dire comme n'importe qui, moi, vous m'envoyez dans un nouveau métier, laissez-moi un petit peu de temps d'adaptation, expliquez-moi les choses à ma vitesse, je vais m'adapter, je vais comprendre, puis je vais faire mon travail correctement. Mais c'est la même chose pour eux, sauf que leur temps d'adaptation va peut-être être un peu plus long, va peut-être avoir besoin d'un peu plus de supervision, mais un coup qu'ils font leur travail, ils font leur travail. Ce sont des personnes qui ont envie, qui ont besoin de démontrer leur capacité. Et quand on leur laisse la chance, quand on leur laisse la place, ils sont capables de faire plein de choses.
Je comprends que c'est vraiment la mission qui vous anime, qui puisse atteindre leur potentiel à eux.
Oui, parce que souvent, on va se dire, bien, on a un enfant différent, bien, il ne sera pas capable de faire ça. La première année de vie d'un enfant avec la trisomie 21 va rencontrer tous les médecins spécialistes. Par exemple, le cardiologue va dire, oh, votre enfant a un problème cardiaque. Après ça, on va aller voir une physiothérapeute. Ah, oh, bien, votre enfant, il n'est pas capable de faire ça. Et on va toujours travailler sur les incapacités pour développer.
Les petits deuils qu'on fait.
Et c'est beaucoup de petits deuils. Mais c'est important de dire, bien, votre enfant, il est capable de faire ça. Il est capable. Oh, regardez, il y a un intérêt. Il aime jouer au hockey. Il aime faire ça. Il aime écouter telle chose. Ah, oh, il y a un intérêt sur les animaux. Faut voir le positif de la personne et le pousser vers le haut. On est tous capables de monter un escalier, une petite marche à la fois. Faut prendre le temps de le faire, puis ils ont plein de belles capacités. Puis nous, ce qu'on essaie de démontrer aux parents, c'est laissez-leur découvrir leurs goûts, leurs intérêts, puis vous allez voir, ils en ont tous. Là. Tout le monde a des goûts et des intérêts.
Geneviève, on prend une courte pause et ensuite, j'aimerais vous entendre sur ce projet intergénérationnel que vous avez créé.
Parfait.
De retour avec Geneviève Labrec, directrice générale pour le regroupement pour la trisomie 21. Et Geneviève me disait pendant la courte pause qu'elle connaît Camille et ça me fait bien plaisir parce que ça fait 3 ans que je ne travaille plus à cet endroit et Camille continue à m'écrire des petits messages en disant ce qu'elle fait cette semaine et elle me demande tout le temps « quand est-ce que tu reviens?
» Mais elle est très attachante, Camille. Vraiment adorable.
Et c'est ça, pendant ces années-là, j'ai vu Camille grandir, je la vois, on est amis Facebook, je la vois aussi grandir. Et il y a ces enjeux-là au niveau des parents qui voient leur enfant grandir. Vous parliez de la ménopause qui arrive plus tôt. Comment aider les parents, justement, face au défi de la croissance? J'imagine que c'est un grand enjeu.
C'est un très grand enjeu parce que c'est quelque chose que le système médical n'est pas habitué non plus à les voir vieillir. C'est tout nouveau pour beaucoup, beaucoup de monde. Il y en a des personnes qui ont passé par là avant nous. C'est des parents qui ont défriché, fait qu'on apprend avec eux beaucoup. On venait dans l'inconnu, puis la grande peur de la majorité des parents, c'est qu'est-ce qui va se passer après que moi, je ne sois pas là, qui va prendre soin de mon enfant, comment mettre en place une bonne stratégie. Donc, on accompagne les parents à leur rythme. On ne peut pas aller trop devant d'eux. On a préparé, nous, en ce moment, on a des guides sur le vieillissement des personnes, on a des guides d'information sur la ménopause, on a travaillé beaucoup sur la ménopause en étant une équipe de femmes, on a appris beaucoup de choses, je vous dirais, sur la ménopause, c'est vraiment, on a trouvé ça très drôle, par moments moins, et c'est ça, on essaie de trouver des guides d'information parce que souvent, le parent, avec la vie de tous les jours, son travail, il faut qu'il y ait des choses rapides à comprendre. Et il y a quand même beaucoup d'attentes dans le réseau quand on a besoin de soutien dans le réseau public. On peut attendre 6-7 mois, tandis que quand il appelle au regroupement pour la trisomie 21, ben on a une réponse dans les 48 heures si on appelle la fin de semaine. Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui répond assez rapidement.
Geneviève, comment le milieu scolaire accueille les jeunes qui vivent avec une trisomie 21?
C'est très variable d'une école à une autre, d'une commission scolaire à une autre. Puis on sort de la grève qu'il y a eu au niveau de l'enseignement, où on entendait parler beaucoup des écoles, des classes qui n'ont pas assez de ressources pour accueillir les besoins particuliers de tous les élèves. Je vais vous avouer que ça, moi, personnellement, ça m'a un peu chamboulée parce que je trouve que l'école, c'est la porte d'entrée de tout. Et
Ah,
que
tellement.
c'est là qu'on apprend le plus de choses. On devrait vraiment mettre en place des stratégies pour accompagner tous les enfants. C'est sûr que la trisomie 21 va faire peur à un enseignant. Quand on va voir sur le papier que c'est écrit trisomie 21, on va dire, oh mon Dieu, c'est quoi? Je connais pas ça. J'ai pas appris à enseigner ça parce que les enseignants apprennent à enseigner à la moyenne des personnes. Pour vos enfants qui ont des défis, donc c'est pas évident. C'est très difficile pour les parents de comprendre le système scolaire. C'est un gros système avec beaucoup de normes, de termes à utiliser. Les enfants qui choisissent d'être inclus en classe quand les parents décident ce chemin-là, qui est le chemin selon la loi que chaque enfant devrait aller, c'est dans son école de quartier, bien, si on met en place des stratégies, les enfants apprennent beaucoup. Et les enfants qui ont une trisomie 21, mais aussi les autres enfants qui les entourent au quotidien parce qu'ils apprennent à pas rendre le temps, à accompagner, ils apprennent la bienveillance, ils apprennent plein de choses. Puis on le sait, les parents savent que leurs enfants, là, ils ne deviendront pas des médecins, mais ils vont apprendre les comportements sociaux à avoir en société. Puis quand ils vont sortir de l'école, ben ils vont aller à l'épicerie, puis ça ne sera pas une épicerie juste pour les enfants avec ou des adultes avec des besoins particuliers. Ça va être une épicerie où tout le monde y va. Donc l'inclusion scolaire pour le regroupement pour la trisomie 21, c'est quand même important. Il y a des classes spécialisées dans des écoles régulières aussi. Il y a des écoles spécialisées pour des enfants qui veulent prendre ce choix-là ou les parents qui veulent prendre le choix. C'est important de respecter le choix du parent, mais il faut que l'école soit ouverte aussi à accueillir tous les enfants.
Et c'est jusqu'à quel âge que l'école accueille ces jeunes?
En théorie, au Québec, on doit être scolarisé jusqu'à 16 ans. Dans les faits, il y a des écoles pour adultes aussi, donc on peut aller jusqu'à 21 ans. En règle générale, là, quand on a une trisomie 21 à l'école, on peut aller jusqu'à 21 ans.
Donc, pour un parent qui sait que son enfant est à l'école durant la journée, quand il termine sa journée, là, c'est de savoir comment l'occuper. Est-ce que justement, il est assez capable de vivre par lui-même ou de joindre des milieux d'accueil? C'est un autre défi qui se pose.
Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la personne, ça dépend du parent, ça dépend du contexte familial, ça dépend de la ville où on habite. C'est tellement très difficile de normaliser pour tout le monde.
D'où l'importance de vous consulter.
Oui, puis des fois, c'est juste, on va amener un regard différent. Et c'est important aussi que la famille soit accompagnée par un travailleur social aussi, qui va connaître ce qu'il y a dans le quartier ou dans la ville où on habite pour pouvoir nous dire les ressources qui existent dans le coin.
Et je sais que vous avez fait avec de concert avec le Centre de petite enfance Réa, une activité intergénérationnelle. Mais j'essayais de comprendre, est-ce qu'on parle justement de jeunes et de trisomiques plus âgés, donc ensemble?
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un groupe de personnes âgées en haut de 40 ans qui viennent à nos activités. En moyenne, ils ont autour de 50 ans. Et ils viennent les jeudis et les vendredis, on fait des activités sociales. Donc, c'est des personnes qui ne vont plus au travail ou qui n'ont plus de stage ou qu'on a mis, entre guillemets, à la retraite. Et ils viennent avec nous faire des activités pour conserver les acquis. Et on a notre voisin, c'est un CPE, le CPE Réa. Et on a travaillé avec eux. On disait, bien, ça serait le fun de permettre aux enfants de côtoyer la différence, mais dans un but ludique. Donc, tous les jeudis matin, on a un groupe, soit le groupe des 3 ans ou le groupe des 4 ans. Là, je pense que c'est les matelots et j'ai oublié l'autre nom, qui viennent jouer, entre guillemets, là, participer à une activité avec nos personnes âgées. Donc, des fois, c'est du yoga sur chaise, des fois, c'est du bricolage, des fois, c'est des discussions, des jeux de table. Et les enfants ne voient pas la différence. Ils voient qu'ils viennent passer du temps avec des amis. Bon, ils sont plus âgés, c'est correct, mais ils s'entraident les deux quand ils font des casse-têtes. On voit, c'est sûr qu'en septembre, quand on commence, on voit la gêne, là, on se connaît pas, on apprend à s'apprivoiser, il y a des noms. Et on a même été au CPE faire une visite de où les enfants vivent et de nos personnes âgées. Je disais, waouh, c'est beau un CPE, là, c'est tout parfait, c'est tout. L'idée, c'était vraiment de côtoyer la différence pour les tout-petits et pour les personnes âgées aussi de voir des enfants puis d'être en mesure de les aider. Quand on fait des parcours moteurs, bien, c'est nos personnes âgées qui tiennent la main de l'enfant. Donc, on essaie de favoriser cet échange-là et c'est tellement stimulant pour les deux groupes. C'est très beau comme activité. C'est beau à voir.
Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est une personne avec une trisomie 21 et qu'on devient une personne âgée nous-mêmes?
Oui.
Parce que je trouve déjà qu'il y a beaucoup d'âgisme en général dans notre société. Donc, est-ce qu'ils sont doublement infantilisés?
Je vous dirais qu'en règle générale, dès qu'on a une trisomie 21, on est infantilisé, ce qui est très dommage. Puis en vieillissant, on l'est aussi. Vous le voyez quand vous allez dans n'importe où avec une personne âgée, on va s'adresser souvent à son accompagnateur. Mm-hmm. Mais c'est la même chose quand on accompagne une personne qui a une trisomie 21. Souvent, on va se faire dire « Ah, ben c'est quoi son nom? Ben, demandez-lui. » Puis si la personne ne parle pas, ben là, après ça, vous allez pouvoir vous adapter. Mais adressez-vous à la personne. Moi, c'est la chose qui me fâche le plus en ce moment dans notre société et je le côtoie là, dans mon milieu de travail, mais dans mon milieu personnel. Et des fois, je vais au centre d'achat puis je vois les gens qui parlent à l'accompagnateur de la personne en fauteuil roulant. Je fais, mais voyons donc, elle existe, elle est là. Dites-lui bonjour, là. C'est la moindre des choses, mais c'est l'âgiste, c'est la même chose.
Oui, mais même avec les enfants neuroatypiques, parfois, ils sont capables de dire leur nom. On va demander aux parents comment ils s'appellent, quel est son âge. Donc, il y a beaucoup de préjugés à décloisonner. Il y a beaucoup de services, d'informations qu'on peut obtenir auprès du regroupement pour la trisomie 21. Geneviève, le site Internet.
trisomie.qc.ca.
Donc, des conférences, des ateliers, psychoéducation, physiothérapie.
Enfin, on essaie de répondre aux besoins des parents le plus possible. Donc, quand on voit qu'il y a des grandes listes d'attente, bien, on va accompagner les parents. Donc, on a certains spécialistes sur place qui peuvent aider les familles.
J'invite toutes les familles qui veulent en savoir davantage ou qui sont tout simplement curieux de découvrir toutes les personnes qui font partie de notre belle diversité à en savoir davantage sur le regroupement pour la trisomie 21. Merci beaucoup Geneviève Labrec d'avoir été avec nous. Merci.
Merci.